très heureux d'être avec vous pour cette journée. Voilà, je me présente. Je suis un retraité administratif. C'est-à-dire que je n'ai plus aucune charge. J'ai laissé toutes mes charges pastorales que j'avais jusqu'à présent, ne gardant que la parole de l'annonce de la parole de Dieu, donc plus de fardeau quelque part, mais la joie de pouvoir partager le message de la parole de Dieu. Nous habitons la ville de Hyères-les-Palmiers, dans le Var. Voilà, tout au, vous descendez, vous allez au bout de la France et vous nous trouvez. Également, nous avons travaillé avant de prendre notre retraite, donc nous avons travaillé dans le centre de vacances des Alpes à Gap, et peut-être qu'il y en a au milieu de vous qui sont passés par ce centre. Voilà, vous levez la main, peut-être pour que, voilà, voilà que Dieu soit béni, hein, parce qu'il est passé tellement de monde qu'on ne reconnaît pas forcément tout le monde quand on revoit et quand on passe. Voilà, nous avons eu la joie de travailler pendant une dizaine d'années donc dans ce centre de vacances. Avant cela, nous avons prêché l'évangile dans la ville de Hyères, où nous sommes basés maintenant. Et actuellement, donc, nous avons fait une tournée. C'est la fin de notre tournée. Ça fait une dizaine de jours que nous sommes partis de la maison. Nous avons été à Cluses pour 3 jours, puis ensuite à Oyonnax pour 2 jours, puis ensuite à Saint-Claude pour 2 jours. Puis à Genève pour une journée, et nous voilà en fin de course, ici donc, eh bien, dans la ville d'Annecy. Dommage, votre pasteur est en mission aussi, donc nous nous croisons, mais nous nous connaissons bien, nous les avons connus quand ils étaient jeunes hommes et jeunes filles, hein, nous étions un peu de la même région, il était de Toulouse, je suis originaire de Pau, donc on se voyait un petit peu dans des rencontres de jeunesse, etc., et puis ils ont été aussi pendant de nombreuses années auprès de nous, au centre de vacances des Alpes, pour y prêcher la parole de Dieu aux enfants, pour nous aider, notre sœur Hélène aussi, avec mon épouse à l'Economa et dans différents services. Donc, dommage qu'on ne se voit pas, mais c'est une joie d'être avec vous et de partager donc ces moments. Nous avons découvert cette région que nous ne connaissions pas, beaucoup, à part une fois où on est allé sur Tournon, une autre fois sur Lons-le-Saunier et une autre fois à Aix-les-Bains, mais autrement on connaissait absolument rien de la région. C'est une très très belle région, ça vaut la peine de venir faire un petit tour, et hier nous nous sommes promenés dans votre ville et nous avons également été au bord du lac, c'était magnifique, avec un beau soleil, on se serait cru sur la Côte d'Azur. Voilà, les gens étaient là étendus sur l'herbe, ils faisaient du bateau, on n'a pas du tout été dépaysés, hein. Voilà, et c'était très agréable donc de visiter cette belle ville. Et je disais à ma femme, ça vaudrait le coup, une autre fois, de venir en vacances dans le coin, pour en connaître un peu plus et pour faire peut-être un peu plus de randonnées pédestres, de découvrir encore des centres. Les frères avec qui nous avons été nous ont fait faire des petites promenades, de découvrir un peu, mais en 2-3 jours, un endroit et l'autre, on ne peut pas découvrir tout. Mais c'est quelque chose de formidable. En tout cas, ce qui est formidable, c'est que nous avons des frères et sœurs partout. Hein? Alléluia. Et c'est un avant-goût du ciel de ce que nous allons vivre quand nous serons tous ensemble autour de la personne de Jésus qui nous a sauvés, qui nous a délivrés. Béni soit son nom. En tout cas, merci à notre frère et notre sœur qui nous ont reçus, à ceux qui nous reçoivent là lors de notre passage, qui nous reçoivent dans leur maison. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Nous allons faire une lecture, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Une lecture qui est courte. Peut-être que vous connaissez ce verset déjà par cœur, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins à Annecy, dans la Haute-Savoie, dans le pays de France, et même jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais partager avec vous quelques points pour que nous sachions quelles sont les qualifications pour être un témoin. Et hier, lorsque nous étions assis sur un banc au bord du lac, nous avons vu des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui étaient là. Et on se disait avec ma femme, combien y a-t-il de chrétiens dans cette foule? Combien y a-t-il d'hommes et de femmes qui sont d'Annecy ou qui sont en vacances, en villégiature? Mais combien appartiennent au Seigneur? Je crois que nous avons encore du travail à faire. Je crois que nous avons encore besoin de prêcher l'Évangile. Je crois que nous avons besoin encore de nous remémorer ces textes qui nous invitent, eh bien, à être des témoins et qui nous invitent à faire l'œuvre de Dieu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, je ne sais pas si vous garderez tout le message, mais que puisse revenir constamment dans votre cœur, aujourd'hui, demain et dans les jours à venir, vous serez mes témoins. Et que cela vous travaille, vous serez mes témoins. Et que du matin au soir, eh bien, vous puissiez entendre le Seigneur vous dire, vous serez mes témoins dans le travail, vous serez mes témoins dans vos activités, vous serez mes témoins dans la ville, vous serez mes témoins avec la famille, vous serez mes témoins avec les amis, vous serez les témoins. Mais vous allez dire, mais oui, mais je voudrais bien être un témoin, mais je suis craintif, on y reviendra tout à l'heure avec un homme qui parlait comme cela, mais vous allez vous dire, mais j'ai pas grand-chose. Et face au monde actuel, vous recevrez une puissance. En grec, c'est le mot dynamis, qui désigne plus que la force ou la capacité, c'est plus particulièrement une puissance en action qui nous donne le pouvoir de chasser les démons et aussi de guérir les malades par l'onction qu'il nous donne. Et notre exemple, le Seigneur Jésus, eh bien, va nous dire ceci, et nous voulons le partager aussi, c'est dans le chapitre 4 de Luc, au verset 14, il nous est dit, quand Jésus est venu faire son ministère sur la terre, quand il a quitté son ciel pour venir sur la terre, eh bien, il nous est dit au verset 14, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et puis au verset 18, il peut dire, avant d'annoncer, en prenant un passage du prophète Ésaïe, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter, pour annoncer une bonne nouvelle, pour envoyer vers le cœur ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer. » Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Et puis au verset 36, il dit encore ceci, « Tous furent saisis de stupeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quelle est cette parole ? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Voilà le résultat de la puissance du Saint-Esprit. Jésus était là celui qui parlait avec une parole d'autorité, avec une parole dont l'apôtre Paul dira, « C'est une parole certaine et digne d'être reçue. » Et c'est cette parole que nous avons, la parole de Jésus, celle qui va amener, eh bien, à commander aux esprits impurs, avec autorité et puissance, de quitter les corps de ceux qui sont liés par ces puissances, et aussi de prier pour les malades, afin qu'ils soient guéris. Et puis au chapitre 5 et au verset 17, nous avons encore un jour Jésus enseigné, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Alléluia. Alléluia. Le temps des miracles n'est pas passé. Peut-être que parfois nous nous désolons, nous prions et nous ne voyons pas les choses se faire comme nous voudrions. Je voudrais, mes frères et sœurs, vous encourager et je voudrais vous dire que le temps des miracles n'est pas passé. Jésus guérit encore parfaitement, quelles que soient les maladies, que ce soit des aveugles, des boiteux, des paralytiques, des cancers, des maladies de foie, des dépressions nerveuses et bien d'autres choses encore, mais croyons encore à la puissance de la parole de Dieu. Vous serez mes témoins, et plus que la puissance du monde, plus que la puissance de la bombe atomique, plus que la puissance nucléaire et bien d'autres puissances qui sont là dans le monde, nous avons une puissance qui est encore plus grande, nous avons la puissance de notre Seigneur et de notre Maître, et c'est celle-là qui nous donne, c'est celle-là qui vous donne encore dans cette journée. Le livre des Actes nous parle des actes du Saint-Esprit. Et c'est bien de savoir comment Dieu a déjà commencé à agir au travers des apôtres. Ils étaient de la même nature que nous. Et nous retrouvons l'apôtre Pierre, nous retrouvons l'apôtre Paul, hein, meurtrier, qui était bien contre la parole de Dieu, mais qui est un homme nouveau et qui va laisser des écrits extraordinaires en disant tout ce qu'il a expérimenté. Ce Pierre-là si fougueux, hein, ce Pierre si impulsif, ce Pierre qui manifeste des élans de foi et puis ensuite, eh bien, qui coule, hein, eh bien, il est de la même nature que nous. Mais le Seigneur va l'utiliser et j'aime, eh bien, entendre ce qu'il peut nous dire au travers des épîtres, ce qu'il nous dit dans les 6 premiers chapitres des Actes des Apôtres, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit. Après la Pentecôte, nous voyons que c'est un homme tout à fait différent. Le Saint-Esprit, son nom est mentionné 70 fois dans le livre des Actes des Apôtres. Et le mot « témoin » est mentionné 30 fois. Cela veut dire l'importance que le Seigneur donne au témoignage que nous devons rendre. Amen. Vous avez encore quelques chaises ? Oui, de disponibles. Et si elles ne suffisent plus, vous achèterez un autre local. Ou vous ferez de culte. Hein? Mais ce n'est pas un problème. Il faut faire rentrer des âmes perdues dans la maison de Dieu parce que le temps est court. Le Seigneur revient bientôt. Et il est certain que nous devons retrousser les manches. Il est certain que nous devons encore aujourd'hui dire au monde dans lequel nous sommes qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Il y a une montée de l'islam, vous en êtes conscient. Il y a une montée du bouddhisme. Il y a une montée de certaines sectes. Mais ça n'amène pas les gens au salut. Le seul qui sauve parfaitement, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est important de le faire connaître aux hommes. C'est important de le proclamer tout autour de nous. Ce baptême du Saint-Esprit ne se limite pas à nous donner la puissance nécessaire pour dire que Jésus est le Seigneur et qu'il est le Sauveur, mais il augmente également l'efficacité de notre témoignage en nous fortifiant et aussi en approfondissant la relation que nous avons avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Regardez avec moi deux textes qui se trouvent dans Jean, le premier au verset 14 et au verset 26. Jean chapitre 14 et au verset 26. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Jésus dit, verset 25, « Même je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » N'est-ce pas vrai? Vous savez, des fois on est étonné, parce qu'on rend témoignage, et puis on cite d'abondance des versets de la parole de Dieu, alors qu'on a si peu de mémoire. Mais on les cite d'abondance. Et ça vous vient tout seul, et on parle avec les gens, et on dit, ben, vous voyez, et le Seigneur, le Saint-Esprit nous donne les versets appropriés, les textes, les témoignages de l'Écriture appropriés, qui vont correspondre aux besoins de l'âme que nous avons en face. Et nous allons leur parler, nous allons leur dire, parce qu'il y a le Consolateur, l'Esprit Saint, qui est envoyé de la part du Père, le Saint-Esprit est envoyé, et qu'il nous enseigne toutes choses. Et combien de fois j'ai été surpris. J'ai dit, mais c'est extraordinaire ça, que tu te rappelles de cela, que tu parles comme ça. Et les gens, parfois, vous regardent et vous disent, mais d'où vous me connaissez? Qui vous a dit ces choses? Qui vous a parlé de moi? On ne s'est jamais rencontrés. Et je leur dis, oui, c'est vrai, mais il y a quelqu'un qui vous connaît là-haut, hein, et c'est lui qui parle au travers de ma bouche. Au chapitre 15 et au verset 26, il est dit « Quand je vous enverrai le Consolateur », il le répète, « que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Oui, il rendra témoignage de moi, et quand nous rendons témoignage, il faut parler de qui ? De moi ? Non, on peut dire un peu ce que le Seigneur a fait dans notre cœur, ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Mais il faut centrer notre témoignage sur la personne de Jésus. Il faut amener les gens à Jésus. Et je dirais plus, il faut amener les gens à la personne de Jésus, mais Jésus crucifié. Ce qui faisait dire à Paul dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 2, si je ne me trompe pas, « Je ne veux savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et dans le chapitre 1er et au verset 17 de Corinthiens, il dira également qu'il a été annoncé, la puissance de l'Évangile est donnée pour sauver les incroyants par la folie de la prédication. La folie de la prédication et la folie de la prédication de la croix. N'oublions pas cela. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une option, mais le baptême du Saint-Esprit est une nécessité qui rend capable et nous fait prendre conscience que le Seigneur va se servir de nous, qu'il va nous utiliser. Mais qui va également nous équiper pour cela. Le Seigneur va nous équiper. Nous n'allons pas tout seuls, mais nous allons avec le Seigneur. Je vais vous poser une question et je ne vous demande pas de me répondre à moi, mais de répondre devant le Seigneur dans votre cœur. Avez-vous la passion des âmes ? Avez-vous la passion des âmes ? Où en êtes-vous ce matin, alors que je vous parle dans le domaine du témoignage ? Si je pouvais ce matin tout simplement raviver en vous peut-être ce feu que vous aviez quand vous avez connu le Seigneur. Parce que ce qui se passe bien souvent, c'est que quand nous sommes jeunes chrétiens, alors il y a un feu qui nous anime sur les premières années et qui fait que nous allons rendre témoignage, qui fait que nous allons parler de Jésus. Et puis, avec le temps, peut-être que ça baisse. Hein, ça baisse. Et puis, il est vrai aussi que nous sommes entraînés aujourd'hui dans un monde de rapidité. Il faut toujours courir. Vous savez ce que je dis, moi ? Je suis à la retraite et j'ai plus le temps de rien faire. Et quand je parle aux autres retraités, ils me disent, c'est pareil. Hein? On n'a plus le temps. Alors, on est pris par des tas de choses. On est pris par des tas de choses. Et on oublie le principal. Alors, je dis, Seigneur, réveille-moi. Alors, je dis, Seigneur, donne-moi d'être un témoin. Et dans ma petite sacoche, j'ai toujours des évangiles. Et je veux rendre témoignage partout où je vais. Je veux parler de la puissance de mon Seigneur, de mon Sauveur. Je veux lancer la semence parce qu'il faut jeter le pain à la surface des eaux. Et le Seigneur bénira, il fera son œuvre. Je jette. Je suis Annecy, eh bien... Je parle avec des gens, et j'ai parlé hier avec des gens que j'ai rencontrés qui ne sont pas forcément des gens d'Annecy ou comme ça, mais on a partagé quelques mots, et le monsieur m'a dit « Ah, qu'est-ce que vous faites ?» Eh bien, j'en ai profité pour lui dire, l'autre jour on était dans un magasin, on nous a dit « Ah, vous êtes en vacances ?» On a dit « Oui, on est de passage. »« Ah bon ?» Et puis j'ai dit « Oui, eh bien on vient me porter la bonne nouvelle. » Vous voyez, il y a toujours, j'essaye toujours d'arranger, d'aménager pour lancer sur le terrain. Eh oui. Et je crois que c'est ça que nous avons à faire. Oh, les prospectus, ça vaut plus rien, les prospectus. On en a tellement distribué, puis on n'a rien vu se faire. Laissez-moi vous dire que si je suis là aujourd'hui, c'est à cause d'un prospectus qui a été donné en 1959. Hein, c'était pas hier, mais voilà. Pourquoi ? Eh bien, je suis là aujourd'hui. Et je crois encore. Alors il m'arrive aussi, et je dis pas ça pour me mettre, mais parce que j'ai réalisé et que je veux de prendre des évangiles et dans mon quartier d'aller en mettre dans les boîtes aux lettres ou des prospectus dans les boîtes aux lettres. Et je dis, Seigneur, en distribuant, je dis, Seigneur, tu vois derrière cette maison, tu vois dans cet appartement, il y a peut-être un drame qui est en train de se passer. Il y a peut-être des gens qui veulent se suicider, qui en ont assez de la vie. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils peuvent trouver un évangile qu'ils vont lire tranquillement chez eux sans que personne les voie, mais qui va bouleverser le cours de leur vie. Soyez des témoins, mes frères et sœurs. Vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit et sur votre front, le totem qui est là mentionné, c'est sauvé pour servir. Sauvé pour servir. Oui, ayons la passion des âmes. Et comme la parole de Dieu nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si dans notre cœur, il y a la puissance du Saint-Esprit avec abondance, eh bien nous allons parler avec discernement, nous allons parler avec sagesse, nous allons parler de la part du Seigneur, et le Seigneur va nous encourager, alléluia. Et en nous encourageant, eh bien ça va nous dire, tiens, il faut que tu continues, hein. Ça y est, t'en as fait rentrer une, allez, il faut encore une autre. Et si chacun gagne une âme, ben vous serez le double. Et si quelqu'un gagne encore une autre âme, eh bien vous arriverez à être le triple, le triple, le quadruple, etc. Il est merveilleux de savoir que lorsque l'Esprit de Dieu nous pousse à parler à quelqu'un, il a déjà travaillé dans son cœur. Et j'en veux pour preuve l'exemple du chapitre 8 des Actes des Apôtres où l'Esprit dit à Philippe, va dans le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, et là tu vas trouver un homme qui est assis sur un char et qui est en train de lire la parole de Dieu. Il est en train de lire la parole de Dieu, mais il ne comprend pas ce qu'il lit, c'est l'Éthiopien. Et Philippe va aller vers cet homme et va lui annoncer le message de la parole de Dieu, va l'amener très rapidement jusqu'au niveau du baptême, va le laisser et il va continuer son ministère ailleurs. C'est formidable cela, mais ça existe encore aujourd'hui. Comme je le disais, nous allons de temps en temps en prison. Et il y a une quinzaine de jours, trois semaines, nous étions en prison à Toulon, le samedi et le dimanche. Et là, on y voit des choses merveilleuses. Si vous saviez tout ce qui se passe. Et puis, nous allons rentrer et le 9 novembre prochain, nous serons à la prison des Baumettes à Marseille, chez les femmes, pour annoncer aussi le message de la parole de Dieu. Faisons partie d'une équipe qui est autour des aumôniers qui sont dans notre région. Et on voit qu'il se passe des choses merveilleuses dans la prison. Alors, pour vous dire simplement que Dieu prépare les cœurs, un prisonnier avait la Bible et il lisait la Bible. Et l'aumônier rentrait et lui a vu cet homme qui, avec une Bible, il lui a dit, tiens, vous avez la Bible? Il dit, vous lisez la Bible, vous croyez? Alors, il lui a dit, oui, ben il n'y a pas longtemps, mais je lis la Bible. Mais il dit, depuis que je lis la Bible, je suis devenu fou. Alors l'aumônier l'a regardé et lui dit, ah bon, expliquez-moi. Ben, il dit, écoutez, je lis la Bible, et ensuite je me mets à prier, et puis quand je me mets à prier, je me mets à parler dans des langues que je ne connais pas. Il n'a jamais assisté à une réunion, mais dans sa cellule, le Seigneur l'a sauvé, parce que cet homme, à la lecture de la parole de Dieu, a demandé pardon pour ses péchés. Plus que cela, il l'a baptisé dans le Saint-Esprit, il ne savait pas ce que c'était. Gloire à Dieu. Et nous avons des témoignages extraordinaires derrière les barreaux de ces hommes, de ces femmes qui font des expériences. Il y a quelques jours en arrière, nous disait, je ne connaissais rien de la parole de Dieu, mais on m'a donné un évangile et on m'a donné une Bible. Et maintenant, ils dévorent la Bible. Ils ont le temps, hein, derrière les barreaux, mais ils dévorent la Bible et ils parlent aux autres et ils rendent témoignage aux autres et il s'est converti, il s'est repenti, il a dit, voilà, j'ai fait de grosses bêtises. Mais je ne sais pas quoi, on ne lui a pas posé la question, mais il en a pour 15 ou 20 ans, donc il a fait quelque chose de grave. Mais il dit néanmoins, eh bien, je suis libre dans mon cœur. Au nom du Seigneur, soit toute la gloire. Oui, quand Dieu parle, et quand Dieu veut se révéler dans les cœurs, il a un message, et il a un message particulier pour tous. J'en veux aussi pour preuve deux textes. Un qui est celui que l'on voit quand Jésus va parler aux Juifs dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2 et au verset 36, Actes des Apôtres, chapitre 2 et au verset 36. Voilà, aux Juifs, ce qu'il va leur dire. Que la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, aux Juifs, Jésus va leur amener un message pour se révéler dans leur cœur. Parce qu'ils connaissent Dieu. Ils ont la loi, ils connaissent Moïse, Abraham, ils connaissent toutes ces choses-là. Mais ils n'ont pas la révélation sur la personne de Jésus. Et lorsqu'on regarde les 12 premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, nous voyons que le témoignage est donné aux Juifs pour qu'ils rencontrent la personne du Seigneur Jésus, parce qu'ils ont besoin de changer de pensée au niveau du Maître. Et puis, quand il va se révéler aux gentils, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16 et au verset 31, alors il y avait les Juifs, il y avait les gentils, et voilà ce qu'il leur dit, c'est-à-dire les non-croyants, une autre catégorie. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 30, c'est le geôlier qui pose la question, qui est un de ces gentils. Ça fait drôle de dire que ce geôlier était gentil alors qu'il a battu de verges et qu'il a mis au fer l'apôtre Paul et puis ses compagnons, Paul et Silas. Mais voilà ce qu'il dit. « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ces hommes n'avaient pas besoin de changer de pensée au sujet du Messie. Mais ils avaient besoin de croire en lui. Et il va leur donner un message particulier, différent de ce qu'il a donné aux Juifs. Il va se révéler et il va faire pour que nous puissions, nous aussi, que ce soit les uns ou que ce soit les autres, avoir la parole, avoir le message qui correspond et qui va intervenir pour bénir abondamment et sauver les âmes. Alors, on va voir maintenant quelques exemples de témoins que nous trouvons dans la parole de Dieu et qui vont nous montrer un peu les réactions aussi que l'on peut avoir quand on rend témoignage. Alors, dans Jérémie chapitre 20 et au verset 7, Jérémie chapitre 20 et au verset 7, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader, tu m'as saisi et tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie, tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression, et la parole de Dieu est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » Alléluia. Jérémie, regardez son appel. Lorsque nous lisons dans le chapitre 1er au verset 7, Jérémie, quand Dieu va lui dire « Voilà, je t'ai choisi pour que tu annonces la parole de Dieu » et c'était pas facile du temps de Jérémie, c'était pas facile. Parce que Jérémie a écrit le livre de Jérémie, puis il y en a un qui le suit. Et il s'appelle comment ? Les Lamentations. Ça veut dire ce que ça veut dire, les Lamentations de Jérémie. Donc il n'a pas toujours rigolé. Ça n'a pas été toujours facile de rendre témoignage du Seigneur. Mais néanmoins, dans le premier passage, il dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, parce que moi je t'ai élu. » Parce que moi je t'ai oint, parce que moi je t'ai touché pour que tu apportes la parole de Dieu. Alors Dieu veut travailler avec lui. Et Jérémie dit, tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader. Le Saint-Esprit nous travaille, il nous titille. Parce que des fois, on a besoin d'être persuadé, on a besoin d'être saisi. Et le Seigneur est le vainqueur. Alléluia. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Mais ça ne veut pas dire que la partie sera facile, puisqu'il dit « Je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. » Vous allez rendre témoignage et vous allez voir. Ça ne va pas être facile certaines fois. S'il y a des gens qui vont accueillir avec les bras ouverts, il y en a d'autres qui vont être méchants avec vous. Il y en a d'autres qui vont se moquer de vous. Il y en a d'autres qui vont vous tourner le dos. Mais peu importe, parce que si vous êtes découragé parfois en disant « ben j'arrête, puisque c'est comme ça, j'arrête », puissiez-vous dire comme Jérémie a dit « il y a un feu dévorant dans mon cœur qui est renfermé dans mes os, et à cause de ça, je ne peux pas me taire. Il faut que je parle, quoi qu'il arrive, quoi qu'on me dise ». Mais il faut que je rende témoignage à la gloire de Dieu. Dans le livre de Daniel, au chapitre 6, et du verset 4 jusqu'au verset 11, on ne va pas le lire parce que le temps passe vite. Hein. Alors, vous le lirez à la maison, du chapitre 4 au verset 11, mais nous allons tout simplement lire le verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Là nous avons un témoin fidèle, chez Jérémie un témoin inspiré, mais là nous avons un témoin fidèle, un fidèle en tout temps et en toute chose. Et j'aime ce texte qui dit qu'il ne put retrouver aucune occasion. Rien n'a été trouvé chez cet homme, sinon sa fidélité. Rien de mauvais, rien de telle chose. Et dans le fond, mes frères et sœurs, c'est là aussi peut-être un secret pour que nous rendions témoignage. Parce que si notre vie n'est pas droite, si notre vie, parfois, elle est un peu branlante, et si nous acceptons parfois quelques petits compromis dans nos vies chrétiennes, quand nous allons aller rendre témoignage, il y a quelqu'un qui va se charger de nous dire « tais-toi ». Parce que regarde ce que tu as fait. Hein? Regarde ce que tu as dit. T'as vu comme tu t'es conduit ? Et maintenant, tu parles de la puissance de Dieu, de sa sainteté, de la sanctification ? Alors ça travaille là-dedans, hein. Alors ça travaille et puis on dit, bon, ben oui, c'est vrai, je me suis loupé, donc je me tais. Et puis on se fait avoir. Mais si cela avait été le cas pour quelqu'un, effacez ça en venant le déposer aux pieds de Christ. Pardon Seigneur, je me suis manqué. Pardon, et ça arrive à tous, hein. Ça m'est arrivé, ça vous arrivera ou ça arrivera encore. Il y a des moments où comme ça, hop, ça dérape. Hein. C'est comme quand vous conduisez sur le verglas et puis tout d'un coup, hop, ça dérape. Et on ne sait plus où on va. Mais que Dieu soit béni. Parce que le Seigneur, il pardonne. Et il fait toutes choses à merveille. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et il est dit aussi dans 1 Corinthiens 4:2 que chacun soit trouvé fidèle. Le troisième point, c'est un témoin à contre-cœur. Est-ce que ça ne vous arrive pas ? On va voir, Jonas. Jonas, chapitre 3, verset 1er, jusqu'au verset 10. Donc, on va aussi, je vais parler de ce texte pour écourter un peu la lecture. Dieu parle à Jonas. Et lui dit, tu te lèves, tu vas à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Ninive était une grande ville, et il y avait des gens méchants, mauvais. Et quand Jonas va passer dans cette ville pour annoncer le message, verset 5, il nous dit, les gens de Ninive crurent à Dieu. Alors ils ont publié un jeûne, ils se sont revêtus de sacs, ce qui était un signe de repentance. Et même les bêtes, eh bien, elles ont été aussi dans cet état, on les a fait jeûner. et ils se sont convertis. Et au verset 10, il est dit, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. C'est extraordinaire ça. Ces gens de Ninive qui sont méchants, mauvais et qui se convertissent parce que l'évangile est annoncé par Jonas. Mais Jonas, c'est un drôle de bonhomme, Jonas, hein ? C'est un drôle de bonhomme. Parce que, au verset 1er du chapitre 4, il nous est dit ce que Jonas a ressenti quand il y a eu la repentance de ces gens de Ninive. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Ça laisse pantois. Je sais pas, moi, il me semble qu'une ville entière qui se repent, ça doit faire des bonds comme ça. Hein, on doit sauter de joie, merci Seigneur, pour le salut de temps et de temps. Lorsque les 3000 âmes ont été sauvées à la prédication de Pierre, il me semble qu'il y a eu de la joie. Ah ben non, ils râlent. Oui, qu'est-ce que c'est ? Ils étaient pécheurs, et au lieu de les tuer, au lieu de les éjecter, eh bien tu les sauves. Qu'est-ce que c'est que cette manière de faire ? Heureusement que Dieu n'est pas comme nous. Heureusement que le Seigneur n'agit pas de la même manière que nous agissons. Parce que nous avons souvent quelques petits relents à l'intérieur. Une dent, j'ai une dent contre un tel, il m'a fait du mal, eh bien, il saura ce que c'est, il va me le payer, tôt ou tard, mais un jour, il va en avoir les conséquences. Ce n'est pas à nous à nous défendre, hein, ça appartient à Dieu. Mais quand nous prêchons l'Évangile, soyons heureux, ne soyons pas des témoins à contre-cœur. Et quand nous voyons des gens si bas tombés, des gens qui nous ont fait du mal, des gens qui étaient pires que pendre et que nous les voyons se convertir, poussons des grands, alléluia. Bénissons le Seigneur en disant, tu es toujours le même Seigneur. Et comme tu as sauvé ces brigands, hein, ce brigand sur la croix, eh bien tu sauves encore parfaitement. Jésus mangeait avec les publicains, avec les gens de mauvaise vie. Il mangeait avec eux, non pas pour s'acoquiner, non pas pour vivre dans leur misère, mais bien pour leur annoncer l'Évangile avec le but de les sauver. Quand il a rencontré la femme adultère, il a dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Alors que Dieu soit béni et soit loué. Le quatrième témoin, c'est le témoignage de l'Esprit. Jean, chapitre 16, verset 7. Jean, chapitre 16, et au verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, et si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Amen. Le témoignage de l'Esprit. Jésus est mort et il est ressuscité. Et cela a été avantageux pour nous. Parce que Jésus, s'il était vivant, il vivrait à Jérusalem, il vivrait en Israël, mais il ne serait pas sur toute la terre. Mais là, il est monté au ciel et il nous a envoyé son Esprit. Et l'Esprit de Dieu, il est en France, il est en Afrique, il est en Asie, il est jusqu'au bout, jusqu'aux extrémités de la terre, et il agit. Le Consolateur. L'Esprit Saint est un Consolateur. Et quand l'œuvre de Dieu, quand le témoignage vient dans un cœur et qu'il est reçu favorablement par ce cœur, eh bien, il console. Que Dieu soit béni. Et puis, il nous est dit, il convaincra. Alors, des fois, nous, on s'attache à essayer de convaincre les gens, de leur faire comprendre. Hein, alors, on essaye, et des fois, on casse tout. On est pénible même, hein, des fois. Ouais, convertis-toi, tu dois te convertir, tu dois demander pardon. Hein. Non, il vous convaincra. Ce n'est pas à nous, mes frères et sœurs, à convaincre, mais c'est au Saint-Esprit de convaincre les cœurs. Croyez qu'il est capable de le faire, et il le fera certainement mieux que nous. Il vous conduira dans toute la vérité. Ta parole est la vérité. Et ensuite, quand donc nous avons prêché la bonne nouvelle, la semence, il nous conduit dans la vérité. Et on abandonne le sentier large et spacieux pour aller vers le chemin étroit. Il ne parlera pas de lui-même, il dira ce qu'il aura entendu. Et ce message que nous avons à donner, c'est de ne pas parler de nous-mêmes, de notre personne, moi-je. Hein, on aurait peut-être parfois tendance à dire « moi je ceci, moi j'ai cela, etc. » Mais il parlera et il vous annoncera les choses. Et c'est beaucoup mieux quand il y a une parole qui vient de Dieu et qui est dite à propos comme je le disais tout à l'heure. Dans Actes des Apôtres, chapitre 26, Paul nous parle d'un témoignage continuel. Chapitre 26 et au verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis pas fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. » Paul va rendre témoignage en toute occasion. Et Paul dira, « Rendre témoignage sans s'écarter. » Vous savez, souvent il faut faire attention de ne pas nous écarter de la parole de Dieu. Et des gens avec qui nous allons entrer en contact rendre témoignage, vont essayer de nous amener sur un terrain, un peu comme la Samaritaine, vous savez, lorsqu'elle a rencontré Jésus et qui lui a dit, voilà, tu as Saint-Marie et puis celui que tu as n'est pas ton mari. Elle a essayé de bifurquer en disant, mais vous, vous adorez sur cette montagne et nous, nous adorons ailleurs. Elle a essayé de noyer le poisson, comme on dit, un peu de passer à côté. Mais non, restons centrés sur la parole de Dieu. Restons centrés sur le message. Et Paul est resté centré sur ce message. Alors le roi lui a dit, tu es fou. C'est pas un mot que vous avez entendu déjà quand vous a dit hein? Mais tu es fou. Tu es là dans cette assemblée, tu parles comme ça, tu vis là-bas, mais tu es fou, mais c'est pas croyable. Mais non, il y a de la persévérance chez Paul. Et cette persévérance fait qu'il ne se laisse pas impressionner par le roi, mais il reste donc dans la bonne direction. Allez, un dernier. Dans le chapitre 5 de la première de Jean, et au verset 7, 1 Jean 5, 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le témoignage que nous avons à rendre est formidable, parce que ce témoignage va faire que ceux qui vont croire, ils vont recevoir le Fils, et cela va les amener à avoir une place avec nous pour l'éternité. C'est pas extraordinaire? Ils vont passer des ténèbres à son admirable lumière. Ils vont avoir une espérance. Ça va être des hommes et des femmes qui, à cause du témoignage, de ce témoignage vrai, parce que le témoignage qu'on peut recevoir dans le monde de Pierre-Jacques ou n'importe qui n'est pas celui qu'il faut. Mais celui qui va maintenant, amener ce témoignage va avoir un témoignage vrai. Un témoignage qui va répondre aux besoins des cœurs et des vies. Un témoignage qui va glorifier le Seigneur. Un témoignage qui va faire des hommes et des femmes sauvés, qui appartiennent à Jésus. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et c'est moi qui suis Dieu. Ésaïe 43, 12, et je conclus par cela. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. C'est moi qui suis Dieu. Alors c'est vrai, il y a Dieu, et puis il y a nous, et puis il y a cette puissance qui nous a été communiquée par Jésus, par le Saint-Esprit. Ésaïe, un jour, après avoir fait une rencontre comme tout à nouveau avec Dieu dans le temple, Ésaïe dans le temple dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance. Il a vu les séraphins, il a réalisé sa misère, sa petitesse. Mais ensuite, il va entendre le message de Dieu. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Sa réponse à Ésaïe a été « Me voici, envoie-moi ». Quelle réponse vas-tu donner ce matin au Seigneur? Est-ce que comme Ésaïe, tu vas dire « Me voici, envoie-moi » parce que j'ai entendu comme tout à nouveau, d'une manière fraîche, renouvelée, mais j'ai entendu, Seigneur, que tu m'appelles, que tu as dit « Vous serez mes témoins ». Alors oui, c'est vrai, je veux reprendre courage. C'est vrai, je me suis peut-être arrêté. C'est vrai, je me suis peut-être découragé. C'est vrai que j'ai peut-être même eu de la paresse, je ne sais. Mais Seigneur, j'ai compris ce matin. Et je me mets à nouveau à ta disposition. Alors, me voici, envoie-moi. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Nous voulons te remercier et te rendre grâce, Seigneur, pour